France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Mise au défi par le chef de l'État de trouver une issue à la crise en 48 heures chrono. Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a repris ce matin ses consultations. Il convie toutes les formations politiques à Matignon entre cet après-midi et demain matin. On tâchera d'explorer les différentes pistes encore possibles. Et puis avec notre invité, on s'interrogera sur la nature de cette crise politique, institutionnelle, voire de régime. Dans le reste de l'actualité, nous serons en direct de la cour d'assises d'appel du Gard pour la deuxième journée du procès du seul des 51 condamnés pour le viol de Gisèle Pelicot avoir fait appel de sa condamnation. Et puis on se rendra en Israël où ont débuté ce matin les commémorations du deuxième anniversaire des attaques du 7 octobre. À quand la prochaine péripétie? Le compte à rebours est lancé d'ici demain soir. Le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, Sébastien Lecornu, devra donc dire au chef de l'État si un accord est encore possible afin d'éviter de nouvelles élections législatives. Une mission de la dernière chance, en somme, censée bâtir une plateforme d'action susceptible d'apporter la stabilité, sauf qu'avec un manque de culture politique, du compromis aussi abyssal, et quand bien même tous les partis s'activeraient tant bien que mal dans des manœuvres en coulisses. On va y revenir dans un instant. Qui peut encore croire sérieusement à une autre issue de cette crise qu'une nouvelle dissolution de l'Assemblée, avec le risque d'ailleurs d'arriver pratiquement au même paysage explosé, voire d'une démission du chef de l'État, lequel semble décidément de plus en plus isolé sur la scène de ce qui apparaît aujourd'hui surtout comme un vaste théâtre de l'absurde. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Hier déjà, les images reprises partout d'un Emmanuel Macron arpentant seul les quais de Seine avaient vite fait de dresser le portrait d'un homme non seulement esselé, mais dont beaucoup pointent désormais la responsabilité coupable dans ce fiasco politique. Quelques heures plus tard, Gabriel Attal, lui-même l'actuel président du parti présidentiel, déclarait ne plus comprendre les décisions du chef de l'État. Enfin ce matin, c'est un autre ancien de ses premiers ministres, le chef d'Horizon, Édouard Philippe, qui réclamait au chef de l'État d'organiser une élection présidentielle anticipée.
Oui, Édouard Philippe était incité depuis plusieurs jours par les élus de son parti Horizon à prendre une initiative, et c'est ce qu'il a fait ce matin sur RTL.
Cette crise politique, c'est l'affaissement de l'État. L'État n'est plus tenu. En France, le président de la République a cette responsabilité immense d'être le chef de l'État. Je pense qu'il doit aujourd'hui prendre la décision qui est à la hauteur de sa fonction. Et il me semble qu'il s'honorerait si, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté.
En clair, il entérine le fait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas aller au terme de son mandat et il lui demande de préparer ce départ anticipé qu'il juge inéluctable. Il fait le constat, selon son entourage, que le blocage politique fragiliserait les institutions, que l'économie du pays serait désormais menacée et qu'il faut par conséquent organiser les choses avant qu'on ne puisse plus rien contrôler. Et pour ça, dit l'ancien Premier ministre, le plus sage sera qu'Emmanuel Macron annonce qu'il démissionnera après l'adoption d'un budget au printemps prochain. Il y a deux raisons à cela. La première est institutionnelle. La Constitution donne en effet un délai de 35 jours maximum pour organiser une nouvelle élection présidentielle en cas de démission d'un président. C'est très court, trop court pour faire campagne, selon Édouard Philippe. Et puis, la seconde, c'est qu'il constate l'emballement de la machine politique et institutionnelle. Tout se précipite. Sébastien Lecornu n'a pas tenu un mois à Matignon. Son gouvernement n'a duré que 14 heures. De potentielles nouvelles échéances électorales approchent à grands pas, municipales, législatives anticipées, présidentielles peut-être. Dans ces conditions, tout responsable politique qui se respecte a le devoir d'anticiper et d'agir en conséquence. C'est ce qui se passe à tous les niveaux et dans tous les états-majors. Édouard Philippe n'échappe pas à la règle et fait comme tout le monde, il s'autonomise, essaie d'exister et tente de se singulariser.
Merci Stéphane Robert. Alors ce matin s'est tenue une réunion du socle commun, mais dans une nouvelle version, disons restreinte, puisqu'était présent autour de la personne de Sébastien Lecornu la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, le président du Sénat, Gérard Larcher, de même que les patrons respectivement de Renaissance et Horizon, Gabriel Attal et Édouard Philippe, donc, ainsi que le chef des députés du Modem, Marc Fesneau. En revanche, le président de l'UDI, Hervé Marseille, lui, n'était pas présent, pas plus que Bruno Retailleau, le président du parti Les Républicains, qui ce matin affirmait malgré tout ne pas fermer la porte à un retour de son parti dans le gouvernement à condition qu'il s'agisse d'une cohabitation avec la Macronie. De son côté, le Rassemblement national ne cesse de réclamer une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Quant aux différents partis de gauche, ils semblent avoir bien du mal à définir une stratégie pour tenter de trouver des solutions à cette crise. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Preuve de la confusion, surtout de la déstabilisation à laquelle cette crise aura mené l'opposition de gauche, ce n'est pas une, mais deux réunions qui se sont tenues dans la matinée.
Oui, deux réunions à l'initiative des écologistes, car hier, l'appel lancé par Jean-Luc Mélenchon pour une réunion des anciens alliés de la NUPES et du NFP a fait pchit, écologistes et socialistes jugeant quelque peu gonflé que le leader insoumis soit à l'initiative après avoir passé des semaines à les critiquer avec violence. Les écologistes, qui se voient toujours comme le trait d'union entre PS et LFI, ont donc proposé à leur tour une réunion avec toutes les forces de gauche, LFI, PCF, PS, Génération, les ex-insoumis, dans un lieu neutre à 9h ce matin. Les socialistes et les communistes ont toutefois refusé d'y participer. Une seconde réunion en visioconférence était donc organisée dans la foulée de la première, avec cette fois-ci socialistes et communistes à la place des insoumis. Elle est toujours en cours. On a la conviction encore qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable, assure une proche de Marine Tondelier, alors que pourtant ça en a tout l'air. Si d'un côté le PS, le PCF et même les écologistes sont alignés pour rejeter le projet de destitution d'Emmanuel Macron porté par LFI et exiger de l'Élysée une nouvelle fois une cohabitation avec la gauche à Matignon, de l'autre, en cas de dissolution, le PS, les communistes et Place Publique ne veulent plus d'un accord global comprenant les insoumis. À l'issue de la première réunion, toutefois, les lignes semblent s'affirmer un peu au détriment des socialistes. Les participants ont acté pour la première fois que soient présentées dans toutes les circonscriptions des candidatures porteuses du programme du NFP. Et tous se retrouveront demain pour une nouvelle réunion. Cette fois-ci, une délégation de députés communistes qui ne sont pas sur la même ligne que Fabien Roussel participera. De quoi permettre à terme à Jean-Luc Mélenchon de faire porter la responsabilité de la désunion sur le Parti Socialiste.
Merci Adrien Toffolet. Pour continuer d'évoquer cette faillite générale de la classe politique, peut-être même au-delà une possible crise de régime, invité à présent de la rédaction Dominique Rousseau, professeur émérite en droit public à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis hier, beaucoup parlent de la pire crise politique de la 5e République. Est-ce que vous vous rangez à cette analyse ?
Ce serait difficile de ne pas se ranger à cette analyse d'après avoir entendu vos différentes interventions. Évidemment, c'est la plus importante, la plus grave, la plus surprenante, shadowkienne même, crise politique de la cinquième République. Un gouvernement qui est nommé dimanche, 2 heures après le ministre d'État, pas simplement ministre de l'Intérieur, mais le ministre d'État qui dit ne pas comprendre la composition du gouvernement, le lendemain la démission, c'est absolument affligeant de voir cette situation politique-là.
Quel est le statut légal de la mission de la dernière chance qui a donc été confiée par le chef de l'État à Sébastien Lecornu, lequel n'a pas été reconduit au poste de Premier ministre ? Est-ce que l'on se trouve toujours dans le cadre prévu par la Constitution ?
Non, c'est très surprenant. Un ministre démissionnaire n'a que deux fonctions, assurer la continuité de l'État et réagir s'il y a des problèmes d'urgence type résurgence du Covid, attentats terroristes, etc. Mais on ne va pas demander à un ministre démissionnaire d'essayer de former un gouvernement, ce Premier ministre démissionnaire ayant annoncé qu'il ne serait pas Premier ministre même s'il y avait succès. C'est du grand n'importe quoi. Donc, ce n'est pas la fonction d'un Premier ministre démissionnaire de faire ce travail. À la limite, ce qu'aurait pu ou dû faire le président, c'est de nommer un sage, un non-politique, qui aurait eu pour mission de voir quels étaient les accords possibles entre les différents groupes politiques pour construire non pas un truc comme la plateforme d'action et de stabilité, mais employons des mots que les Français comprennent. Un contrat de gouvernement. Ça, on comprend. Un contrat de gouvernement. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme ? Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme ? C'est un truc pour le pétrole ou c'est quoi ? Il faut un contrat de gouvernement. Et ça, c'est un sage extérieur qui pourrait construire ce contrat de gouvernement.
Vous évoquiez ce qu'aurait pu ou dû faire le président. Lorsqu'on cherche à comprendre comment on en est arrivé à cette situation depuis la dissolution de l'an dernier, Deux hypothèses semblent s'affronter. D'une part, ceux pour qui Emmanuel Macron aurait eu un usage dévoyé du rôle d'arbitre que lui assigne la Constitution pour essayer de sauver son bilan politique, notamment après les européennes. Et puis ceux qui, d'autre part, estiment que c'est la forme même du pouvoir exécutif prévu par la Constitution, confronté à la disparition qui plus est du fait majoritaire au Parlement, qui a incité le président à prendre les décisions de ces derniers mois. Quelle est la bonne hypothèse, selon vous ?
La Ve République repose sur une diarchie de l'exécutif qui montre qu'il y a structurellement et pas conjoncturellement un problème entre les deux têtes de l'exécutif. De Gaulle disait « il n'y a pas de diarchie d'exécutif ». Mais si, il y a une diarchie d'exécutif. Et il y a toujours eu des conflits entre président et Premier ministre. Conflit entre De Gaulle et Debré en 62, conflit entre De Gaulle et Pompidou en 68, conflit entre Pompidou et Chabans en 72, conflit entre Giscard et Chirac en 76, conflit entre Mitterrand et Rocard, conflit entre Sarko et Fillon, conflit entre Hollande. Bon, bref, je peux faire toute l'histoire. C'est structurel, ça ne dépend pas gauche, droite, centre. Il y a structurellement un problème à la tête de l'État. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il y a eu, de 58 à 62, il y a eu évidemment l'affaire, la guerre d'Algérie, qui a conduit le président de la République, à l'époque de Gaulle, à prendre tous les pouvoirs que le Premier ministre ne voulait pas exercer et que l'Assemblée nationale, d'ailleurs, ne voulait pas non plus prendre. Mais n'oublions pas que la Constitution distribue les compétences de manière très claire. Article 5, c'est dans la Constitution, le président est un arbitre. Pas un capitaine. Le capitaine, c'est le gouvernement. Donc, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure, et puisque c'est pas clair, préciser dans la Constitution que le président est un arbitre, c'est-à-dire lui enlever la présidence du Conseil des ministres, dire que le président du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre, dire que les conseils des ministres se tiendront à Matignon et pas à l'Élysée, ce qui fait que vous, les journalistes, vous n'irez plus à l'Élysée, mais vous irez à Matignon. Donc le regard se portera vers Matignon. Et ainsi, progressivement, on aura, une clarification de la responsabilité politique en France.
Merci Dominique Rousseau, professeur émérite donc en droit public à l'Université Paris-Panthéon Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Le procès en appel des viols de Mazan se poursuit aujourd'hui avec le face-à-face très attendu de l'accusé avec Dominique Pellicot, considéré comme le chef d'orchestre de ce dossier et qui sera entendu cette fois-ci comme témoin uniquement.
Oui, et deux versions a priori opposées vont donc se confronter cet après-midi devant la cour d'assises d'appel du Gard. D'un côté, Hussam Ettin, le seul des 51 bourreaux jugés en première instance avoir fait appel de sa condamnation à 9 ans de prison et qui ne cesse de répéter qu'il a été piégé par Dominique Pellicot, en clair qu'il a toujours cru participer au jeu consenti d'un couple libertin. Et puis de l'autre, l'ex-mari de Gisèle Pellicot qui maintient que tous savaient, autrement dit que tous étaient bel et bien des violeurs. Julie Pacaud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous avez assisté à l'audience ce matin où le directeur de la PJ d'Avignon à l'époque des faits était appelé à la barre et dont le témoignage, Julie, vient mettre à mal la défense de l'accusé.
Main posée à la barre, le commissaire Jérémy Bosse-Platière expose face à la cour synthétique et précis le résumé de cette enquête, l'une des plus graves qu'il a eu à diriger, reconnaît-il. Sur les 4000 fichiers vidéo et photos retrouvés sur le disque dur de Dominique Pellicot, 119 concernaient un certain Karim, 38 ans, que les enquêteurs identifient rapidement comme Oussam Ettin D. Des vidéos de viol par plusieurs pénétrations péniennes et digitales sur Gisèle Pellicot, commis par l'accusé la nuit du 28 au 29 juin 2019. Entre minuit 12 et 3h46. Ce qui démontre qu'il est resté plus de 3 heures sur place, insiste le commissaire, écornant donc la défense de l'accusé, lequel prétend être venu au domicile des Pellicot dans le but d'un jeu sexuel à trois, avant de se rendre compte au bout de 30 minutes que quelque chose n'allait pas. Or, toute personne qui voit les vidéos comprend immédiatement que Gisèle Pellicot est inconsciente, souligne le directeur d'enquête, et je n'ai aucun doute sur le fait que Oussam Ettin D est pleinement conscience de l'état de la victime. En témoignent les chuchotements des deux hommes, leurs gestes précis et minutieux, énumère-t-il. Quant aux menaces de Dominique Pellicot que l'accusé soutient avoir subies pour justifier qu'il ne soit pas parti, il n'y a pas de rapport de domination ou de rapport coercitif, mais plus de la complicité, assure Jérémy Bosse-Platière. Un accusé marié et père d'un enfant atteint de trisomie 21, dépeint hier par les psychologues qui l'ont expertisé comme un homme sans maladie psychiatrique, mais dont l'empathie est diminuée et entretenant un clivage avec une sexualité extraconjugale conjugale hors norme à travers la pratique du triolisme où autrui est avant tout perçu comme un objet sexuel.
Merci Julie Paco, en direct de la cour d'assises d'appel du Gard avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
D'un bain de sang à l'autre, en ce 7 octobre, date à jamais souillée par le massacre barbare perpétré en Israël par les terroristes du Hamas, les familles et proches des victimes ont commencé à se recueillir ce matin, tandis que depuis les ruines de la bande de Gaza voisine se fait toujours entendre l'écho du hurlement des explosions qui depuis deux ans maintenant rythment sans discours. Continuer la guerre de représailles à l'aveugle menée par l'État hébreu contre la population palestinienne. Marie-Pierre Véro, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous vous êtes rendu, Marie-Pierre, ce matin à Raïm sur le site du festival de musique Nova où plus de 370 personnes ont été tuées par les commandos du Hamas.
Oui, et depuis l'aube, les familles des victimes, les amis se pressent ici, cheminent dans le mémorial. De simples piquets blancs qui portent les visages souriants des jeunes qui sont tombés. Le bruit régulier et sourd des obus vient rappeler que l'on est à quelques kilomètres à peine de Gaza. La cérémonie d'hommage débute par la construction d'une cabane. En ce premier jour de fête de Soukhot, David y accroche une photo de sa fille, Lisa.
Le sens de la Soukha, c'est de célébrer cette fête. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de fête, juste de la douleur.
Un peu plus loin, Lisa et Michael déposent des fleurs. Ils sont venus de Londres. Leur fils, Jake, était musicien.
Ils ont
tiré sur notre fils à 9 reprises, dit la maman.
Michael est revenu 13 fois ici depuis le 7 octobre, et moi 12 fois.
À chaque fois, c'est ici que l'on se sent proche de Jake. Son âme et son cœur sont ici. Il est enterré à Londres. On va voir Jake chaque dimanche, mais c'est ici qu'ils sont proches de lui.
C'est plus comme sa tombe pour nous.
Tous le disent, il n'y a pas de mots pour exprimer leur douleur, pour dire l'indicible. Mais ici, ensemble, ils se comprennent et se reconnaissent. En treillis, fusil automatique en bandoulière, Alma se recueille devant la photo de l'un de ses amis. Elle dirige un groupe d'artilleurs. Elle était là le 7 octobre pour récupérer les corps et évacuer les blessés et ne cesse de revenir.
J'ai souvent emmené mes soldats ici pour qu'ils puissent vivre ce qui s'est passé, qu'ils le sachent et puissent en parler. C'est important pour moi de venir ici et d'y emmener mes combattants, ceux qui étaient déjà en service le 7 octobre et les nouvelles recrues.
Comprendre ce qui s'est passé et surtout, surtout, ne pas oublier.
Merci Marie-Pierre Véro. Et pendant ce temps, j'ajoute que les négociations indirectes entre le mouvement islamiste et le gouvernement de Benjamin Netanyahu se poursuivent en Égypte avec l'espoir toujours ténu de mettre fin à ce cycle inépuisable de la vengeance.
L'Union européenne a choisi de passer à l'offensive pour sauver sa production d'acier.
Oui, la Commission doit dévoiler aujourd'hui une nouvelle mesure de sauvegarde pour protéger la filière en grande difficulté face à l'afflux sur le vieux continent d'importantes quantités d'acier venu de Chine. Les fabricants européens ont vu leur marge s'effondrer, d'où cette nouvelle clause de sauvegarde préparée par Bruxelles et qui inclura notamment la réduction de près de moitié des quotas étrangers qui pourront être importés sans surtaxe. Les précisions de notre correspondant Fabien Cazot.
L'Union européenne s'est aussi se montrer protectionniste. En relevant ses droits de douane sur l'acier importé à 50%, la Commission prend exactement la même mesure qu'a prise Donald Trump aux États-Unis pour protéger son marché intérieur. C'est surtout l'acier chinois qui est visé. Des quotas d'importation plus sévères sont également introduits, pas plus de 10% de l'acier utilisé en Europe. L'Union européenne peut être largement autosuffisante, selon le commissaire à l'industrie Stéphane Séjourné. Les nouveaux droits de douane auront un impact minime sur les prix, veut-il croire.
Ça correspond à 1 euro pour une machine à laver, ça correspondra probablement à une cinquantaine d'euros, pas plus, pour une voiture. Mais c'est le prix de la souveraineté, c'est le prix des emplois également partout en Europe. Aujourd'hui, le secteur de l'acier en tant que tel, c'est 300 000 emplois directs dans 20 pays, c'est 2,5 millions d'emplois indirects. Mais c'est aussi notre capacité de produire pour nous-mêmes.
Une quête d'autonomie qui rejoint les demandes insistantes des grands industriels européens qui conditionnent leurs investissements sur le continent à la protection du marché intérieur.
Une semaine après avoir renvoyé le Premier ministre pour tenter de calmer la contestation, le président malgache a désigné hier un général de l'armée au poste de chef du gouvernement. Alors cela suffira-t-il à sortir le pays de la crise politique ou bien seulement à faire cesser les rassemblements hier au 12e jour du mouvement de protestation? Les grenades assourdissantes ont encore résonné face au cortège de centaines de manifestants descendus dans les rues de la capitale. Le prix Nobel de physique 2025 a été décerné ce matin à un trio, le britannique avec John Clark, l'américain John Martini, et le français Michel Devoret pour leurs travaux dans la mécanique quantique, en l'occurrence ce qu'un profane pourrait résumer ainsi, l'effet tunnel macroscopique qui permet à de gros objets de traverser d'épaisses barrières. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec partout du soleil. Même si quelques bancs de nuages persisteront par endroits de la Haute-Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, quant aux températures, elles sont comprises entre 17 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.